Le 11e chapitre des aventures de Tom Sawyer. Sur le coup de midi, l'horrible nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Point besoin de télégraphe, auquel d'ailleurs on ne songeait pas à l'époque où se passe ce récit. Bien entendu, le maître d'école donna congé à ses élèves pour l'après-midi. S'il ne l'avait pas fait, tout le monde l'eût regardé d'un mauvais œil. On avait retrouvé un couteau ensanglanté auprès du cadavre du docteur, et ce couteau avait été identifié. Il appartenait à Muff Potter, disait-on. Circonstance aggravante pour ce dernier, un villageois attardé l'avait surpris vers les 2 heures du matin en train de faire ses ablutions au bord d'un ruisseau, chose vraiment extraordinaire pour un gaillard aussi sale, et qui d'ailleurs s'était aussitôt éclipsé. On avait déjà fouillé tout le village, mais sans succès, pour mettre la main sur le meurtrier. Le public a vite fait, comme on le voit, de faire son choix parmi les témoignages et d'en tirer ses propres conclusions. Des cavaliers étaient partis à sa recherche dans toutes les directions et le shérif se faisait fort de l'arrêter avant le soir. Tous les habitants de Saint-Pétersbourg se dirigèrent vers le cimetière. Oubliant ses peines, Tom se joignit à eux. Une sorte d'horrible curiosité le poussait. Il se faufila au milieu de la foule et aperçut l'effroyable spectacle. Il lui sembla qu'il s'était écoulé un siècle depuis qu'il avait visité ces lieux. Quelqu'un lui pinça le bras. Il se retourna et vit Huckleberry. Les deux garçons échangèrent un long regard. Puis ils eurent peur qu'on ne lût leurs pensées dans leurs yeux et ils se séparèrent. Mais chacun était bien trop occupé à échanger ses réflexions avec son voisin pour leur prêter attention. Pauvre garçon, pauvre jeune homme, ça servira de leçon à ceux qui profanent les tombes. Muff Potter n'y coupera pas, il sera pendu. C'est un châtiment envoyé par le ciel, déclara le pasteur. Tom frissonna de la tête aux pieds. Son regard venait de se poser sur Joe l'Indien. À ce moment, un murmure courut dans la foule. « le voilà, c'est lui !»« Qui, qui ?» firent plus de 20 voix. « Muff Potter !»« Attention, il va s'échapper. Ne le laissez pas partir !»« Quelle audace diabolique !» remarqua un badaud. « Il vient contempler son œuvre. » Il ne devait pas s'attendre à trouver tant de monde. Les gens s'écartèrent et le shérif apparut, poussant devant lui le pauvre Potter. Des quidams juchés dans les arbres au-dessus de Tom firent remarquer qu'il ne cherchait pas à se sauver. Il était seulement indécis et perplexe. Il avait le visage décomposé et ses yeux exprimaient l'épouvante. Lorsqu'il se trouva en présence du cadavre, il se mit à trembler. Et se prenant la tête à deux mains, éclata en sanglots. « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, mes amis, » dit-il entre deux hoquets. « Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, ce n'est pas moi. » « Et qui vous accuse ?» lança une voix. Le coup parut porté. Potter releva la tête et jeta autour de lui un regard éperdu. Il aperçut Joe l'Indien et s'exclama. « Oh, Joe !» Tu m'avais promis de ne rien. C'est bien ton couteau ? Lui demanda le shérif en lui présentant l'arme du crime. Potter serait tombé si on ne l'avait pas retenu. Quelque chose me disait bien que si je ne revenais pas le chercher, balbutia-t-il. Alors il fit un geste de la main et se tourna vers le métis. Raconte-leur ce qui s'est passé, Joe. Raconte. Maintenant, ça ne sert plus à rien de se taire. Muet de stupeur, Tom et Huckleberry écoutèrent le triste personnage raconter à sa manière ce qui s'était passé au cimetière. Ils s'attendaient d'une minute à l'autre à ce que la foudre lui tombât sur la tête pour le punir. Mais voyant qu'il n'en était rien, ils en conclurent que le misérable avait vendu son âme au diable et qu'en rompant leur serment, ils ne pourraient rien contre lui. Du même coup, Joe devint pour eux l'objet le plus intéressant qu'ils eussent jamais contemplé. et ils se proposèrent intérieurement de suivre tous ses faits et gestes, dans la mesure du possible, afin de surprendre le secret de son commerce avec le maître des enfers. « Pourquoi n'es-tu pas parti ? » demanda-t-on à Potter. « Je ne pouvais pas faire autrement, » gémit celui-ci. « Je voulais me sauver, mais tout me ramenait ici. » Et il se remit à sangloter. Joe l'Indien répéta sous serment sa déclaration précédente, puis il aida à poser le corps de sa victime sur une charrette. On chuchota dans la foule que la blessure s'était rouverte et avait saigné un peu. Les deux garçons espérèrent que cet indice allait aiguiller les soupçons dans la bonne direction. Mais encore une fois, il n'en fut rien et quelqu'un remarqua même. C'est en passant devant Potter que le cadavre a saigné. Pendant une semaine, Tom fut tellement rongé par le remords que son sommeil s'en ressentit et que Sid déclara un matin au petit déjeuner « Tom, tu as le sommeil si agité que tu m'empêches de dormir. » Tom baissa les yeux. « C'est mauvais signe, » remarqua Tante Polly. « Qu'est-ce que tu peux bien avoir derrière la tête, Tom ?»« Rien du tout, ma tante. » Pourtant, les mains de Tom tremblaient tellement qu'il renversa son café. « Et tu rêves tout haut, » ajouta Sid. « Tu en racontes des choses. L'autre nuit, tu as dit, c'est du sang, du sang. Voilà ce que c'est. Tu as dit aussi, ne me torturez pas comme ça, je dirai tout. » « Qu'est-ce que tu as donc à dire, hein ?» Tom se crut perdu, mais Tante Polly vint inopinément à son secours. « Je sais bien ce que c'est, moi, » dit-elle. « C'est cet horrible crime. J'en rêve toutes les nuits. Je rêve même quelquefois que c'est moi qui l'ai commis. » Mary déclara qu'elle aussi en avait des cauchemars, et Sid parut satisfait. À la suite de cet incident, Tom se plaignit pendant une huitaine de violents maux de dents, et la nuit se banda la mâchoire pour ne pas parler. Il ne sut jamais que Sid épiait souvent son sommeil et déplaçait le bandage. Petit à petit, le chagrin de Tom s'estompa. Il abandonna même l'alibi du mal de dents qui devenait gênant. En tout cas, si son frère apprit quelque chose, il le garda soigneusement pour lui. Après l'assassinat du docteur, ce fut la grande mode à l'école de se livrer à une enquête en règle lorsqu'on découvrait un chat mort. Sid remarqua que Tom refusait toujours d'y participer malgré son goût pour les jeux nouveaux. Enfin, les garçons se fatiguèrent de ce genre de distraction et Tom commença à respirer. Tous les jours ou tous les deux jours, Tom saisissait une occasion favorable pour se rendre devant la fenêtre grillagée de la prison locale et passer en fraude à l'assassin tout ce qu'il pouvait. La prison était une espèce de cahute en briques construite en bordure d'un marais, à l'extrémité du village, et il n'y avait personne pour la garder. En fait, il était rare d'y rencontrer un prisonnier. Ces offrandes soulageaient la conscience de Tom. Les gens du village avaient bonne envie de faire un mauvais parti à Joe l'Indien pour avoir déterré le cadavre de Hoss Williams. Mais il effrayait tout le monde et personne n'osait prendre une initiative quelconque à son regard. D'ailleurs, il avait pris soin de commencer ses deux dépositions par le récit du combat, sans parler du vol de cadavres qui l'avait précédé. On trouva plus sage d'attendre avant de porter le procès devant les tribunaux.